une des caractéristiques de l'ethnologie, ou en tout cas de l'ethnologie classique comme j'en fais, c'est que nous avons tendance à aller loin de notre propre culture, aller étudier des endroits et des gens que nous ne connaissons d'abord peu, mais que nous apprenons petit à petit à connaître, à parler leur langue, etc. Mais que pour faire ça, nous trouvons toujours que nous avons à faire une étude qui va dans les deux sens. Nous avons à non seulement étudier les gens que nous étudions, mais aussi nous avons à réétudier sous un nouvel œil notre propre culture. Cela est vrai pour un certain nombre de raisons, et je crois que pour l'expliquer le plus facilement, c'est, j'en parlerai en relation au sujet qui va m'occuper ce soir, qui est la manière dont la nature est comprise. Une des choses dont je veux vous parler est la manière dont la nature est comprise par un groupe de Malgaches qui vivent dans la forêt. Mais pour étudier ça, comme j'essaierai de vous montrer, nous avons besoin de réfléchir sur la manière dont la nature est comprise de plus dans notre propre société, afin de pouvoir pouvoir comprendre de quoi nous parlons quand nous parlons de la compréhension de la nature dans un autre endroit. Et puis aussi, il y a une autre raison beaucoup plus simple, que quand nous parlons des sociétés comme celle de Madagascar, il ne faut pas oublier que la manière dont la nature est comprise dans les sociétés occidentales, dans les sociétés européennes, dans les sociétés américaines, a un effet direct sur les sociétés malgaches à travers le pouvoir qu'exercent les sociétés industrialisées, les sociétés riches sur les sociétés pauvres. Donc, si je vais parler des idées de la nature à Madagascar, je vais presque prendre autant de temps à parler sur les idées de la nature chez nous, surtout comme elles se sont développées dans les dernières années. De parler des idées de la nature concernant Madagascar n'est pas quelque chose qui doit vous paraître étrange. La raison pour laquelle ça ne vous est probablement pas étrange est que il y a eu un nombre incroyable d'articles dans la presse, de programmes de télévision qui montrent des aspects du monde naturel à Madagascar. Il y en a de plus en plus, il y en a beaucoup en France. Dans les pays anglo-saxons, il y en a un nombre absolument incroyable. Par exemple, en Angleterre, dans les deux dernières années, il y a eu plus que 10 programmes concernant la nature à Madagascar, qui se ressemblent tous énormément. Il y a même eu un programme d'enfants sur Madagascar. Et alors, la première chose dont je voudrais parler, c'est comment Madagascar est représenté dans ces programmes de télévision, dans ces articles de presse, pour la consommation européenne et américaine, et surtout comment l'environnement naturel, les animaux, les plantes, le paysage est représenté pour nous. On va dire, avant ces dernières années, il n'y avait presque jamais de programme sur Madagascar. On parlait très très peu de Madagascar en Europe, pas du tout aux États-Unis, c'était un des endroits les plus inconnus. Maintenant, c'est un endroit assez familier, qui est surtout représenté comme un endroit où d'intérêt particulier pour les botanistes, pour les zoologues. Et il y a une bonne raison pour cela. Madagascar est une très très grande île, la troisième île du monde, avec une population de 12 millions de personnes à peu près, mais qui s'est séparée du continent africain il y a à peu près 130 millions d'années, donc il y a très 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 longtemps, ce qui fait que les espèces naturelles sont très très particulières à cette île. Il y a presque autant d'espèces botaniques uniques à Madagascar qu'il y en a d'uniques dans tout le continent africain. Cela est également vrai des animaux, des vertébrés, et en particulier de certains vertébrés, de certains animaux qui ont une importance extrêmement grande pour les zoologistes, les animaux qui s'appellent les lémuriens. Les lémuriens sont des petits animaux, ils ressemblent beaucoup à des singes, mais ils sont très intéressants pour l'histoire et le développement de l'homme, car ce sont des primats qui existaient avant les singes. Il y en avait partout dans le monde. Il y en avait à Montpellier. Il y a des squelettes de lémuriens que l'on peut trouver, je suis sûr, dans ce sous-sol ici. Mais ils ont disparu du reste du monde quand les singes en sont apparus, et ils n'existent maintenant uniquement à Madagascar. Il y en a une trentaine d'espèces, donc ils sont particulièrement intéressants pour les gens qui s'intéressent à l'histoire naturelle des primats. Il y a aussi une autre raison, c'est que ce sont des jolis petits animaux. Ils ressemblent un peu à des ours en peluche. En fin de compte, ce qu'on voit normalement, c'est seulement une seule espèce. Il y a une trentaine d'espèces de lémuriens à Madagascar, mais il y en a un qui est particulièrement bien pour les ours en peluche, des gros yeux, c'est des gentils petits animaux. Et donc, comme ça, l'image de Madagascar comme un espèce de paradis écologique est marquée, où il y a énormément d'espèces d'animaux, de plantes, et surtout les gentils petits animaux que nous espérons trouver dans un paysage à peine touché par l'homme. C'est vraiment ça l'image principale, l'image première que vous verriez de tous ces programmes de télévision. Vous en avez sûrement vu dans les articles de la presse, et ça va jusque, je crois, Marie-Claire avait des articles sur Madagascar qui sont comme ça. Mais l'histoire serait trop simple, comme si c'était simplement un paradis. Ça ne serait pas assez amusant pour faire des programmes. Il faut aussi qu'il y ait un drame qui se trame à Madagascar. Et alors le drame, c'est la déforestation, le fait que le pays est... que c'est un des exemples d'un pays où les richesses naturelles disparaissent à cause de l'action de l'homme. Donc non seulement on vous montre ce paradis biologique, mais aussi on vous dit il va disparaître si nous ne faisons pas quelque chose. Naturellement, là nous touchons à un des thèmes culturels les plus courants et les plus typiques des dernières années en Europe et aux États-Unis, surtout dans l'Europe du Nord, l'idée que nous vivons sur une planète qui est en danger de l'action humaine, qui est en danger parce que nous détruisons, nous polluons le monde autour de nous, et que nous avons à, d'une certaine manière, à nous contrôler, à nous purifier pour que cet environnement qui était si pur avant qu'Homo sapiens apparaisse là pour tout gâcher, que cet environnement puisse continuer pour cela. Ce genre d'idée est vraiment une des idées absolument dominantes de la société occidentale. Nos enfants apprennent ça dès la maternelle à l'école. Nos jeunes gens se sentent enthousiasmés par l'action écologique. Assez facilement, ils blâment les générations précédentes pour avoir pollué ou pour avoir gâché notre environnement. Les adultes aussi. Les adultes, c'est un peu différent. Les adultes sont assez écologiques pour les endroits assez éloignés. Il est assez frappant que les Parisiens, comme vous avez remarqué un de mes amis, sont tout à fait enthousiasmés par l'ours des Pyrénées. Mais si on leur disait qu'il y avait une race rare de cafards dans leur cuisine, leur enthousiasme pour la biodiversité serait sûrement moindre. Et donc il n'est pas tellement étonnant que l'enthousiasme général dans notre société soit dirigé par un endroit qui est très très loin, comme Madagascar. Là vraiment, on peut insister qu'il est absolument essentiel de préserver ce paradis biologique. Et en fin de compte, il y a naturellement je ne veux pas dire par un discours un peu ironique. D'ailleurs, je ne veux pas être ironique parce que je crois que le genre d'étude des idées courantes de notre société est précisément le genre de choses que nous devons étudier comme ethnologue ou comme sociologue, etc. Et d'ailleurs, beaucoup de nous le font. Je fais allusion simplement très facilement. Mais c'est exactement, nous avons à réfléchir sur la nature de nos représentations, de nos idées, avant de parler d'un autre endroit. Donc c'est un peu ce que je faisais. Mais comme je vous disais, il y a vraiment des bonnes raisons. Il n'y a aucun doute que la forêt tropicale à Madagascar est en train de disparaître, qu'elle diminue d'année en année, et que probablement un bon nombre de ces espèces rares, botaniques, zoologiques, disparaîtront et mourront. Ce qui se passe à Madagascar est d'ailleurs exactement la même chose que ce qui s'est passé en France, mais il y a plus longtemps. Donc, nous avons cette image de cet endroit, et on pourrait dire, cette image n'est pas nouvelle. Pendant la colonie, déjà, le gouvernement colonial français était aussi très écologiste. Les gouvernements coloniaux étaient très écologistes. Eux aussi, ils voyaient l'environnement naturel comme quelque chose qu'il fallait préserver, et surtout le préserver de la pollution qui était représentée par les colonisés qui vivaient dedans. Donc, dans la partie de Madagascar, dans la partie forestière où j'ai beaucoup travaillé, dont je vais parler, par exemple, un administrateur colonial avait mis en place un grand plan pour déporter tous les gens qui habitaient dans la région, les envoyer parce qu'ils étaient, c'était une région forestière où ils pratiquaient une agriculture sur brûlis, c'est-à-dire une agriculture où d'abord on brûle la forêt avant de planter. Et alors, les administrateurs coloniaux avaient pensé que c'était qu'il ne fallait pas faire ça, parce que, naturellement, c'était une des causes de déforestation, et que donc, ils voudraient enlever la population, la mettre dans des camps de concentration, dans les parties semi-désertiques de l'ouest de l'île. Et d'ailleurs, il avait intitulé son plan d'une manière très très intéressante, la solution finale de la population Zafimaniri à Madagascar. Il faut dire que ce genre de phrase était tout à fait à la mode à ce moment-là, et de même manière que les idées écologistes sont tout à fait dans l'air du temps maintenant. La cause principale de cette déforestation était vue par les administrateurs coloniaux, comme elle est d'ailleurs toujours vue dans ces programmes écologiques que vous avez vus à la télévision, comme étant due à cette agriculture sur brûlis et aussi à différentes pratiques où les gens qui vivent dans la forêt, c'est-à-dire à peu près 2 millions de personnes, brûlent la forêt pour différentes fins utilitaires qui leur permettent en fin de compte de cultiver et de vivre. Et il n'y a aucun doute que ce genre de pratique mène en partie à la déforestation. Souvent oublié, c'est qu'il y a d'autres causes probablement également importantes, sinon plus importantes, de la déforestation dont on parle moins dans ces programmes et dont ne parlaient jamais les administrateurs coloniaux. D'abord, il y a eu un changement très important climatique à peu près il y a 5000 ans, longtemps avant qu'il y ait une population humaine à Madagascar, qui a fait que le pays s'est beaucoup desséché, donc la forêt ne se régénère pas facilement. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que dans les 30 premières années de la colonisation, en grande partie à cause des exploitations forestières à Madagascar, des exploitations commerciales forestières à Madagascar, trois quarts de la forêt a disparu dans ces 30 premières années de la colonisation. Donc ce n'est pas simplement les gens qui vivent là qui font une agriculture surbrûlée. Vous voyez, ce que j'ai dit maintenant concerne le genre de représentation qui, je suis sûr, vous sont tellement familières, une représentation de Madagascar en particulier, mais qui entre dans des représentations beaucoup plus générales qui se sont développées depuis les années... ça commence au XVIIIe siècle, ce genre d'idée, mais vraiment, ça prend un ancrage dans l'idéologie populaire européenne et américaine, surtout dans les années, ça commence vraiment dans les années 70, quand ça commence à vraiment prendre une très grande importance. Donc, ça apparaît dans le discours des présidents, des curés, des philosophes, etc. Et à Madagascar, en particulièrement, ce discours a été spécialement important. Pourquoi ? Eh bien, je vous ai déjà donné certaines raisons, les espèces uniques que l'on trouve à Madagascar, le fait que les animaux, qu'il y a certains animaux qui sont très très gentils et qui ont l'air très jolis, c'est les seuls d'ailleurs qu'on voit, il n'y a pas une brochure sur Madagascar qui ne représente pas un lémurien particulier qui est très très gentil. On peut les acheter en peluche d'ailleurs dans les grands magasins à Londres et probablement à Paris aussi. Mais il y a une raison, mais après la conférence de Rio, l'attention des écologistes mondiaux s'est tournée en grande partie avec une intensité très très particulière vers Madagascar. La raison n'est pas simplement la position unique de Madagascar dans le monde. La raison a à voir en partie avec la politique de la Banque mondiale qui est une source très importante, sinon la source principale de financement de développement dans beaucoup de pays du tiers-monde, et qui avait été très critiquée dans les années 60-70, pour avoir encouragé des développements très mauvais pour l'environnement, surtout dans des pays économiquement importants comme le Mexique, l'Amérique centrale et aussi dans certains pays d'Asie du Sud-Est. Faisant face à la pression, et à ses critiques, la Banque mondiale s'est dit, dans les années 80, qu'ils allaient montrer qu'ils étaient des bons écologistes et qu'ils allaient le faire donc dans un pays qui n'avait pas beaucoup d'importance économique. Donc on pouvait se payer le luxe écologique dans un autre pays très très loin. On pouvait continuer les développements moins écologiques dans les pays qui étaient plus importants. Et surtout un pays que la Banque mondiale contrôlait d'une manière absolument incroyable. Et contrôle d'ailleurs toujours d'une raison incroyable, à cause de l'endettement du pays. La Banque mondiale a un pouvoir tel qu'ils savaient très très bien que tout ce qu'ils disent, le gouvernement malgache est absolument obligé, ou immédiatement ou après un bout de temps, de le faire. Si la Banque mondiale décidait que les Malgaches devaient peindre leur figure bleu, blanc, rouge, le gouvernement malgache serait bien obligé de rapidement passer une loi disant que tous les Malgaches devraient peindre leur figure bleu, blanc, rouge. Et donc, la Banque mondiale ayant décidé que Madagascar était l'endroit où ils allaient montrer au monde qu'ils étaient des bons écologistes, ils ont décidé de le faire à Madagascar et ont mené des pressions absolument incroyables sur Madagascar. Surtout, ils ont organisé une conférence en 85. Des écologistes de partout qui sont venus, qui ont fait des grands discours. Le prince Philippe, là, le mari de notre reine, en Angleterre est venu là et a déclaré au président de Madagascar que Madagascar était en train de se suicider écologiquement. Ensuite, il est rentré chez lui. La plupart de ces gens-là n'avaient absolument aucune connaissance sur Madagascar, mais enfin, ils savaient qu'il y avait un danger que ces magnifiques espèces disparaissent. Alors, non seulement nous avons une représentation culturelle très particulière de la culture occidentale, mais la culture occidentale est bien armée, a des forces, des moyens de pression absolument incroyables sur un pays extrêmement pauvre comme Madagascar, surtout dans des années où l'économie de Madagascar était particulièrement faible. Et à la suite de cette conférence, un grand nombre d'organismes de développement qui ont entièrement changé leur politique de façon que tout l'argent qu'ils donnaient à Madagascar était pour des fins écologiques. Un grand nombre de programmes gérés par des Américains, en grande partie des Suisses aussi, sont mis sur pied à Madagascar. Et une dépense de plusieurs centaines de millions de dollars annuellement a eu lieu dans un pays, une somme absolument incroyable pour un pays qui est très très pauvre et dont le revenu annuel du gouvernement est très très faible. La plupart de cet argent, d'ailleurs, comme dans tous les projets de développement, était surtout dépensé pour payer les salaires de ces Européens ou de ces Américains qui sont venus là pour acheter des Jeeps ou des Land Rover aux Anglais, aux Américains, aux Japonais, etc. Après, d'après les calculs d'un économiste qui a regardé ça de près, à peu près 3% de cet argent a été obtenu par des Malgaches. Mais des zones entières de Madagascar ont été données, souvent à des petites universités américaines, pour être gérés par des biologistes qui se sont installés comme des petits potentats et qui ont des pouvoirs absolument importants. Leur pouvoir se dirigeant pour maintenir l'habitat, pour maintenir la biodiversité, et donc leur action a été surtout d'empêcher les gens de brûler la forêt, de les empêcher d'empêcher la collecte de certaines plantes et de certains animaux dans les petits empires qu'ils se sont construits et qu'ils continuent sur lesquels ils continuent à régner. Alors, dans toute cette histoire que je vous ai juste maintenant racontée, les gens qui figurent le moins sont les gens qui vivent précisément dans ces régions. Ce dont je voudrais parler cette deuxième partie de cette discussion est comment ces gens-là voient la nature, comment ils comprennent la nature, comment ils comprennent l'écologie, si vous voulez, comment ils comprennent la relation entre les espèces animales, les espèces botaniques, leurs activités économiques et sociales. Et juste vous donner un aperçu qui vous montrera que nous avons affaire à des représentations qui sont extrêmement différentes de celles de ces représentations qui sont d'origine européenne et américaine, qui sont à la base, à l'origine de cette action extrêmement puissante qui a lieu sur un pays comme Madagascar. C'est pas étonnant, après tout. Les notions de nature, d'écologie sont extraordinairement récentes. Pourquoi est-ce que des gens qui vivent dans des cultures totalement différentes auraient des idées qui se rapprochent du tout de celles qui brusquement commencent à se développer au XVIIIe siècle en Europe, qui n'existaient pas du tout avant et qui brusquement prennent un pouvoir et une extension extraordinaire dans les dernières 15 années dans certains pays européens. Il n'est pas du tout étonnant qu'ils aient un point de vue complètement différent. Et alors là, maintenant, quand je me tourne vers un groupe de malgaches que j'ai étudié, qui sont un de ces groupes qui vivent dans la forêt, il y en a beaucoup. Je vous dis, il y a à peu près 2 millions de personnes, mais j'en connais un en particulier. Donc, je voudrais vous donner un point de vue, une imagination de ce qu'est l'environnement qui est totalement différente. Mais c'est précisément sur ces gens-là qu'en fin de compte, l'action qui commence à Washington ou dans le palais de Buckingham ou dans les maternelles aux États-Unis ou en France a un effet extrêmement important, un effet de contrainte, parce que nous parlons de gens qui normalement cultivaient d'une certaine manière, qui brusquement n'ont plus le droit de cultiver de la manière dont ils cultivaient, ils n'ont plus l'accès aux terres qui étaient les leurs, ils n'ont plus le droit de prendre des plantes ou des animaux qu'ils avaient toujours pris, et ils sont empêchés de faire cela par des gens dont une idéologie est à l'origine étrangère. Bon, eh bien alors, je voudrais parler du groupe que j'ai discuté dans le livre Paysage au pluriel. Dans ce livre et dans cet article, je parle de leur notion de paysage. Ce sont un groupe donc d'agriculteurs sur brûlis. L'agriculture sur brûlis, c'est une agriculture que l'on pratique souvent dans les zones très montagneuses, où on brûle. On coupe d'abord la forêt, on la brûle. On dit souvent qu'on fait ça pour fertiliser le sol, mais ce n'est pas ça la raison principale. La raison principale est pour contrôler les mauvaises herbes, parce que ce sont souvent dans des régions extrêmement fertiles, où il y a énormément de pluie. Et donc les mauvaises herbes sont absolument impossibles. On ne peut pas cultiver avec le nombre de mauvaises herbes qu'il y a. Et alors en brûlant, ça tue les graines des mauvaises herbes. Et on abandonne ces brûlis après un bout de temps, simplement parce que les mauvaises herbes commencent à réenvahir. Donc ils font ça, donc ils brûlent la forêt. Il faut dire qu'il y aurait une possibilité que la forêt repousse s'ils ne reviennent pas là trop souvent. Mais ils ont tendance à revenir de plus en plus souvent parce que la population a augmenté énormément et aussi parce que énormément d'endroits, beaucoup de régions de la forêt leur sont interdits, ce qui par les actions écologiques, parce que et l'effet naturellement d'interdire une partie de la forêt, c'est que les gens cultivent de plus en plus intensément dans les autres, c'est la seule manière dont ils peuvent continuer. Donc souvent l'effet de déclarer des aires protégées comme il y a lieu à Madagascar est de causer précisément la déforestation qu'ils essayent d'empêcher. Mais la déforestation a sûrement lieu. Qu'est-ce qui se passe quand la déforestation a lieu? Eh bien, les régions forestières deviennent des régions de semi-savane et les gens se transforment en riziculteurs irrigués. C'est-à-dire ils transforment le fond des vallées en rizière et donc changent de pratique agricole totalement. Ils ne pourraient pas avoir des rizières tant que la forêt est là, comme ils le savent très bien, parce que le climat est beaucoup trop humide. La forêt attire la pluie, le brouillard qui caractérise cette région, et donc ils ont énormément de produits, de problèmes pour que les récoltes mûrissent. Mais une fois que la forêt a disparu, on peut commencer à construire les rizières qui sont caractéristiques des hauts plateaux de Madagascar. Et donc, au fur et à mesure que la forêt disparaît, ils remplacent leur agriculture. Ce n'est plus une agriculture sur brûlis, ça devient une agriculture sur rizière, entourée de collines qui sont purement des collines de savane. Étant donné l'intérêt mondial et national à Madagascar pour la déforestation, j'ai souvent demandé aux gens pourquoi, qu'est-ce qu'ils en pensaient du fait que la forêt partait. Pour eux, c'est très important, ils changent de mode de vie totalement. Ils ne se disent, c'est des gens qui s'appellent Zafimaniri, parce qu'ils habitent et qui habitent dans une zone écologique forestière très très particulière, mais comme celle-là change, ils disent nous ne sommes plus des Zafimaniri, nous devenons comme les gens d'à côté qui s'appellent les Betsileo, parce que nous changeons notre mode de vie. La notion d'ethnicité n'est pas à Madagascar liée uniquement ou même principalement à la descendance, mais elle est liée au mode de vie, ce qu'on fait, le genre de maison dans lequel on vit. Donc si on change d'agriculture, on devient d'autres personnes. Les gens vous disent ça. Alors je voulais savoir ce qu'ils pensaient de ce changement dramatique. Et je me rappelle, je parle dans le livre d'une vieille dame qui un soir regardait la forêt avec moi. J'étais assis à côté d'elle sur une pierre et alors il y avait un magnifique coucher de soleil et j'ai pensé ça c'est le moment romantique parfait pour avoir une expression de tristesse à propos de la disparition de la forêt. Alors je lui ai demandé pourquoi est-ce que, si elle n'était pas triste que la forêt partait, parce qu'on voyait, elle le savait très bien. Alors elle me dit « Oui, oui, ça m'embête beaucoup. » Alors je lui dis « Ben pourquoi ?» Elle dit « Parce qu'on ne peut plus la couper. » Mais donc ce n'est pas du tout le même genre d'idée que les idées européennes. Je crois que la manière la plus facile pour nous d'approcher, je parle de choses qui sont assez compliquées, mais enfin assez simples, des idées que ces gens qui vivent dans la forêt, comment ils considèrent leur environnement et quand... Et quelque chose qui est indiqué par la notion de Dieu qu'ils avaient traditionnellement et qu'ils ont toujours, quoi qu'ils sont chrétiens, mais leur idée de Dieu est pareille. Dieu, pour eux, c'est ou le Zanahari, et ce qui représente tout ce qui n'a rien à voir avec les humains, tout ce qui vous environne. L'environnement, dans un sens, le paysage, le ciel... Les montagnes, les plantes, les animaux, tout ça, c'est considéré des manifestations de Dieu, et d'un Dieu qui n'a aucun intérêt à l'activité humaine. C'est un Dieu qui s'en moque. Ce Dieu est souvent, dans les idées de ces gens-là, on dit c'est comme le hasard, Dieu c'est le hasard. C'est ce qui n'a rien, qui n'a aucune rime, qui n'a pas de raison, qui n'a pas d'explication. C'est ça la notion de Dieu. Et donc la terre est une manifestation de Dieu, les rochers sont une manifestation de Dieu, le ciel, les nuages, tout ça. C'est des choses, il n'y a pas de raison pourquoi c'est comme ça. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la moralité humaine, avec l'intentionnalité humaine. Et une autre approche de comprendre comment ils voient cette idée de ce qu'est l'environnement est un proverbe qui est souvent répété, d'ailleurs qu'on retrouve dans beaucoup de parties de Madagascar, qui disent « la terre ne change pas, tandis que les humains n'arrêtent pas de changer, n'arrêtent pas de vivre, de naître, de mourir ». Donc il y a une opposition entre un environnement qui est assez stable, quoi qu'il change, mais enfin, il change sans aucune raison, et tandis que la vie humaine est quelque chose qui n'a aucune permanence en elle-même. Cette terre est souvent considérée comme extrêmement hostile. Et le but de la vie humaine, c'est de transformer la durée d'une vie individuelle en quelque chose de plus permanent, en quelque chose qui durera d'une certaine manière. C'est intéressant que le mot malgache « durer » veut aussi dire « dur » comme en français. Il y a le même mot jeu de mots. Et ça n'est pas du tout un hasard. Donc, comment est-ce qu'on peut transformer une vie humaine qui est quelque chose de tellement temporaire, d'éphémère, en quelque chose qui peut durer ? Et la première réponse que vous direz des malgaches, c'est en ayant des enfants. En ayant des enfants et en ayant cette possibilité de les maintenir, de leur donner la vie, c'est-à-dire non seulement de leur donner la vie par la naissance, mais de leur donner à manger, de leur donner la possibilité de eux aussi devenir des parents, et que étant devenus des parents, ils pourront avoir des enfants et ainsi de suite. C'est la première manière dont on peut réussir à vaincre le côté éphémère de la vie humaine. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec la manière dont l'environnement et le paysage est considéré? Pour comprendre cela, et cela s'applique particulièrement à ce groupe que j'ai étudié, il faut comprendre comment ils voient ce qu'est une maison. Ou ce qu'est un village. C'est souvent le même mot qui est utilisé pour village ou maison. Les villages de ces gens-là sont construits en haut des collines, sur des rochers, tandis qu'en dessous, il y a la forêt, souvent dans les nuages, sous la pluie, tandis que les villages sont construits tout à fait en haut des collines afin de d'avoir un peu de soleil, un peu de clarté, tandis que la forêt est une espèce de mer environnante, effrayante, on s'y perd, on ne sait pas trop ce qui s'y passe, tandis que ces endroits qui sont dans la clarté du soleil, quelquefois le matin et le soir, sont des endroits beaucoup plus sûrs. Et c'est là qu'on construit une maison. Une maison, ça commence par un mariage, ou dans un sens, un mariage ne peut pas exister que sans la création d'une maison. Quand le jeune homme, en général, commence à construire une structure un peu lâche près de la maison de son père, et la femme amène une dot, ce qui fournira le foyer. C'est comme ça que la maison commence. C'est à ce moment-là une structure extrêmement faible, souvent avec des bambous, des nattes même pour les murs. Mais petit à petit, la maison durcira, comme disent les Malgaches. Ils remplaceront les nattes, les bambous par du bois, par des immenses piliers de bois qu'ils amèneront, qui seront du parti du bois dur. Parce que le bois, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est des plantes molles et impermanentes comme la vie humaine qui se transforment en quelque chose qui dure et qui est dur. Donc on transforme sa maison en quelque chose de dur. Et on le transforme avec l'aide de ses enfants, des maris et des femmes de ses enfants, avec l'aide de ses petits-enfants, de ses arrière-petits-enfants, qui continuent à durcir cette maison qui est représentée par le mariage. Donc de génération en génération, cette maison devient de plus en plus dure, installée en haut de la colline, sur les rochers. Et dans un sens, quand on pense qu'est-ce que c'est que le succès, comment est-ce que les humains peuvent vaincre un peu l'éphémère de leur existence, eh bien, ils peuvent le faire en ayant des enfants, mais on voit ça dans le fait qu'ils ont une belle maison sur le rocher, parce que le fait qu'ils ont une belle maison montre qu'ils ont des enfants et des petits-enfants, tous ces gens-là, qui ont participé à la construction de cette structure. Donc on peut voir le succès familial. C'est quelque chose que l'on peut voir. Et au fur et à mesure, la maison non seulement deviendra plus dure, mais elle sera de plus en plus décorée. Et ces décorations, comme vous diraient ces gens-là, donnent honneur à la dureté de la maison, au résultat, au succès reproductif de cette famille. Donc, une maison dure commence à représenter quelque chose qui dure presque autant que le pays, que la terre. Pas autant, mais presque autant que la terre. Et une maison commence à être la source d'un village. Parce que les fils construisent des maisons près de celle de leur père, les petits-fils, etc. Finalement, naturellement, la maison d'origine, le couple qui s'était marié, seront morts depuis longtemps. Mais les descendants continuent à durcir et à embellir cette maison qui devient, comme ils disent, une maison sainte, un endroit où on invoquera ses ancêtres dont le mariage a été à la source de cette maison, à la source d'un village. En vous disant ces choses-là, je crois que je vous donne les éléments de base pour comprendre comment les gens regardent le paysage. Je m'en suis rendu compte quand, à certains moments, quand les gens paraissaient voir le paysage ou voir l'environnement d'une manière qui ressemblait à premier abord beaucoup à la nôtre. J'étais très étonné qu'ils aimaient les belles vues, les endroits où on pouvait voir le paysage quand ils étaient montés sur une colline et qu'on pouvait voir le paysage, c'est-à-dire la forêt, mais au-dessus de la forêt, ses sommets avec des villages dessus. Aussi, souvent, quand les jeunes hommes de cette région partent comme travailleurs saisonniers dans d'autres parties de l'île, ils reviennent et ils s'arrêtent avant de rentrer dans leur village et ils regardent le paysage, ils regardent leur village sur la montagne en face avec un certain romantisme, avec énormément d'émotion. Alors je me disais, bien, c'est drôle, ça ressemble beaucoup aux sentiments européens qui sont, même que je savais très bien, sont très particuliers, sont très bizarres, sont développés à une période très très spécifique dans notre histoire. Pourquoi est-ce que les gens feraient ça? Je me suis rendu compte en parlant avec eux que c'était pas du tout le paysage. Ce qu'ils admiraient, c'était le fait qu'il y avait des villages qui avaient réussi cette gageure, si vous voulez, de transformer cet éphémère de la vie humaine en quelque chose qui dure plus, qu'on peut voir, qui brillait souvent dans le soleil au-dessus du paysage. Dans un sens, ce qu'ils regardaient, c'était pas la nature, si vous voulez, mais c'était l'histoire. Regarder le paysage, c'est regarder l'histoire, regarder le succès humain dans un environnement qui est hostile, qui voudrait vous englober, vous noyer dans la même atemporalité qui est la caractéristique de l'environnement ou de Dieu. C'était le succès des humains d'imposer un ordre moral, un ordre historique, un succès qui est très faible parce qu'ils se rendent très bien compte qu'il n'y a que quelques petits endroits où tout de même les gens ont réussi à s'imposer. Mais tout l'effort est comment s'imposer et durer. Durée par le bois qui construit les maisons, quelquefois par les pierres levées qui commémorent aussi, d'une certaine manière, le fait que les humains ont réussi à avoir des descendants, à avoir des enfants, à continuer dans le temps. Oui, je vous dis presque rien sur les idées de ces gens-là, mais je vous en ai dit, je crois, assez pour vous permettre de vous rendre compte à quel point ces idées, qui sont des idées que nous n'avons pas beaucoup de difficultés à comprendre dès qu'on commence à les expliquer, mais qui sont totalement opposées aux idées de la nature, aux idées écologiques qui motivent les Européens des dernières 15 années. Pour eux, la nature représente quelque chose qu'il faut préserver de l'action humaine, tandis que pour ces gens-là, l'action humaine est quelque chose qu'il faut réussir et qu'il faut, dans un sens, c'est pas exactement vaincre la nature, mais obtenir ce genre de permanence qui est toujours une menace dans l'existence de la condition humaine. Et alors, comme ça, je commençais à comprendre, dans un sens, pourquoi, quoique il y a des choses qui ne leur plaisent pas avec les rizières. Aussi, pour eux, ils admiraient énormément les rizières. Une phrase qui revient toujours quand ils parlent de quelque chose qui est beau, ils disent que c'est clair comme ces maisons et ces villages qui sont au-dessus de la forêt, au-dessus des brouillards de la forêt. Aussi, il y a cette idée que la sagesse est quelque chose de clair. Les vieux sont clairs. On dit, quand un vieux parle, on dit que c'est clair. Et que pour eux, les rizières représentaient un succès humain de durée dans le paysage. Que donc la déforestation, pour eux, quoiqu'elle avait des avantages matériels et pratiques, était aussi un succès de ce qui est le but de l'humanité, de construire quelque chose qui sera pour vos descendants. Avec ce genre de représentation donc de la nature, il n'y a absolument rien en commun avec les idées des Européens. Mais nous trouvons dans un pays comme Madagascar, comme je vous disais avant, qu'il y a toute une série d'institutions qui forcent cette notion européenne de l'écologie, du fait qu'il faut garder les espèces animales et biologiques en voie de disparition, qu'il faut les protéger. Nous sommes face à deux mondes totalement différents, mais deux mondes qui sont assez inégaux. Je vous ai d'abord fait remarquer comment le gouvernement malgache, après 85, après cette grande conférence, a inévitablement été obligé, ou peut-être qu'il y avait des gens qui voulaient le faire, à adopter une politique écologiste exactement comme celle que voulait la Banque mondiale. Et les bras de la Banque mondiale pour l'action écologique, en grande partie, vous savez, cette association qu'en anglais on appelle le World Wildlife Fund, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, WWF. Vous savez qu'eux aussi, ils ont des gentils petits animaux qui ressemblent à des ours en peluche sur leur symbole, qui ressemblent beaucoup aux lémuriens. Donc, c'est une organisation qui gère dans un pays comme Madagascar des sommes immenses, tout l'argent qui vient de l'aide américaine, et qui donc souvent contrôle ces petits empires dont je vous parlais dans Madagascar, où on trouve une professeure de biologie d'une petite université de New York qui se comporte exactement comme un roi dans un petit empire, parce qu'elle dispose de beaucoup, beaucoup plus de ressources que le gouvernement malgache, beaucoup plus de Land Rover, beaucoup plus de choses comme ça, et qui empêche les gens de cultiver. Donc, il y a une opposition claire. Et il faut dire que les écologistes s'en rendent compte de plus en plus. Ils auraient du mal de ne pas s'en rendre compte parce que de temps en temps, les gens brûlent leurs maisons et il y en a eu deux ou trois qui se sont fait tuer. Et alors, ils se rendent compte aussi que ce qu'ils veulent imposer est quelque chose qui va à l'encontre des idées des gens. Mais ils essayent de s'excuser ou d'arriver à des modus vivendi possibles. Et c'est là, et je voudrais les examiner, je voudrais en examiner quelques-uns, des choses qu'ils disent, qui paraissent tout à fait raisonnables. D'abord, ils disent, il nous faut absolument prendre contact, travailler avec les gens de la région. Il nous faut des interlocuteurs malgaches avec qui nous pourrons travailler, avec qui nous pourrons arriver à une manière à une manière de faire qui soit acceptable pour les populations locales, car ils se rendent compte qu'ils ne sont pas très aimés. Et alors, ils trouvent des gens, mais n'oubliez pas que la plupart du temps, ce sont des Américains ou des Suisses. Donc, ils ont énormément de mal à parler aux gens dans les régions où ils travaillent. Il n'y a presque aucun qui parle français. Il n'y en a certainement aucun qui parle anglais. Quand ils essayent de parler avec les gens dans les régions où ils sont, ils passent par deux interprètes, souvent. Mais il y a toute une bourgeoisie malgache qui est extrêmement éduquée, et éduquée tout à fait dans le système d'éducation européenne, qui comprend assez bien les idées écologistes, souvent qui les partagent. C'est des gens qui vivent à Tananarive, un peu comme les Parisiens qui aiment bien les ours des Pyrénées. Et alors ces gens-là, ce sont les Malgaches en général, qui sont les interlocuteurs que les écologistes prennent, et alors ils arrivent assez bien à se mettre ensemble. Aussi, c'est très important parce que ces gens-là ont toujours besoin de monnaie forte. Souvent parce qu'ils ont des enfants à l'école, en France, aux États-Unis, etc. Et alors ils sont absolument dans une situation extrêmement difficile. Et ils savent très bien que la manière dont on peut obtenir des monnaies fortes à Madagascar en ce moment, c'est en association avec les organismes écologistes ou avec des individus employés par eux. Mais ensuite, ils vont au niveau, à la campagne, souvent pour trouver des interlocuteurs, des administrateurs, des instituteurs avec qui ils peuvent parler. Et là, nous trouvons que les gens, inévitablement, ont appris entièrement le genre de discours que ces écologistes veulent avoir. Ce qui n'est pas étonnant, parce qu'une des choses que, par exemple, le WWF a mis sur place à Madagascar est un système d'éducation extrêmement élaboré. Ils donnent énormément d'argent pour assurer que les instituteurs enseignent les idées écologistes partout. Et donc, souvent, sont partagées par les jeunes qui sont dans des écoles loin de chez eux, comme ça. Et finalement, quand ils sont au niveau du village, ils font des réunions avec les gens des villages et ils essayent de parler à travers des interprètes. Même quelquefois, il y en a quelques-uns qui parlent un peu le malgache. Ils trouvent que les gens disent d'accord. Ils disent il faut plus cultiver dans cette région. Les gens disent naturellement d'accord parce que les paysans malgaches savent très bien que le gouvernement, tous ces gens, quoique souvent des organisations non gouvernementales, pour les paysans malgaches, c'est le gouvernement, tous ces gens-là. Ils savent très bien que tous ces gens-là sont des gens incroyablement puissants et que donc, comment est-ce qu'on... Ils se rappellent, les administrateurs là, coloniaux d'il y a 50 ans, ils savent que la seule manière dont on peut se comporter envers ces gens-là, c'est en les apaisant, en leur disant oui, 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 en espérant qu'ils partiront. Et donc, ils peuvent imaginer qu'il y a un accord. Ils font ça encore plus en inventant, et ça je parle des écologistes maintenant, en inventant des représentations disant que vraiment les paysans malgaches, ont le même genre d'idées qu'eux. C'est quelque chose qui est très très frappant du mouvement écologiste, qu'ils ont inventé des peuples autochtones dans tout le monde qui avaient des idées par hasard. Ils étaient des écologistes sans le savoir, ils étaient des écologistes avant la lettre. C'est quelque chose qui a été très très frappant en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Par exemple, il y a toute une littérature que vous connaissez probablement, qui vous dit que les Indiens d'Amérique du Sud ont des idées sur la nature, l'équilibre des espèces, l'équilibre des plantes. Il y a quelque chose de vrai, mais ce n'est pas du tout le genre d'idées des écologistes. Il y a quelques aspects qui se rejoignent, certains endroits, et maintenant énormément d'études apparaissent, par exemple en Amérique du Nord. Très récemment, un livre dont je vous donne le titre s'appelle « The Myth of the Ecological Indian », qui montre comment les gens ont construit cette représentation des peuples autochtones comme s'ils avaient des croyances écologiques qui ressemblaient, quelque chose d'absolument effarant, aux croyances qui se sont développées dans les 15 dernières années en Europe dans des conditions très 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 particulières. Ce serait absolument incroyable que ces gens-là aient le même genre d'idées. Ils ne les ont pas, c'est seulement des falsifications qui permettent de ça, et on a ça à Madagascar. Mais naturellement, les écologistes ont besoin de se dire que c'est comme ça pour se donner bonne conscience. Ils ont d'autres raisonnements. Ils vous disent il y en a qui réalisent que les gens sont contre et qui voient que leurs actions forcent les gens à ne plus pouvoir se nourrir, parce que c'est souvent ça, quand on interdit les gens de cultiver, à les forcer de plus pouvoir se nourrir. Dit, il faut qu'on développe un système de développement écologique qui puisse et leur permettre de se nourrir et leur permettre de vivre et de maintenir cette diversité biologique. C'est ça notre but. Et il dit ça tout à fait honnêtement. Mais c'est très gentil de dire ça. Mais personne n'a trouvé de système pour le faire. Par exemple, quand nous parlons des régions montagnardes, ils diront, nous allons essayer d'en développer un. Bon, mais on ne va pas arrêter de manger pendant 20 ans en attendant que les gens développent ce genre de système. S'il y en avait, ça serait très bien, il n'y aurait pas de problème, mais il n'y en a pas. Ça serait bien qu'il y en ait. Mais de prendre ses désirs pour ses réalités est un vieux problème de l'humanité. Et finalement, ils disent souvent « Ah oui, je sais bien qu'ils sont contre nous, mais nous, nous faisons quelque chose, peut-être pas pour eux, mais pour leurs enfants ou leurs petits-enfants ou leurs arrière-petits-enfants, parce que si nous ne faisons pas le genre d'action que nous faisons, leurs enfants n'auront pas la forêt, peut-être que le pays sera totalement dévasté. C'est possible. Mais ils s'étonnent que ce discours ne convainc pas les paysans qui font face à ces pressions. La raison pourquoi ça ne les convainc pas, c'est que s'ils voient qu'ils n'auront plus la possibilité de nourrir leurs enfants à cause des interdictions qui sont forcés de suivre, eh ben leurs petits-enfants ne les intéressent pas tellement. S'ils n'ont pas d'enfants, leurs petits-enfants n'ont pas d'importance. Et donc, nous avons une situation de conflit total qui est souvent ignorée, parce que naturellement aussi le gouvernement malgache ne peut pas se permettre de dire le genre de choses que j'ai dit. Vous vous rappelez, ils sont tenus d'une manière absolument incroyable par ces organismes internationaux tels la Banque mondiale. Il y a aussi des échanges, le gouvernement malgache est extrêmement endetté vers l'extérieur. Les gouvernements comme le gouvernement allemand, par exemple, dit « Si vous faites telle ou telle action écologique, on vous excusera une partie de votre dette. » Ce genre de chantage fait que le gouvernement n'a aucun choix que de suivre les dernières idées écologiques qui viennent de Bonn ou de Washington. Bon, donc nous avons une situation extrêmement dangereuse qui est extrêmement désagréable, dont les gens se rendent très très peu compte dans les pays européens et américains, parce qu'ils voient l'écologie comme quelque chose auquel ils n'ont pas vraiment très profondément réfléchi. Pourquoi ça, qui voit ça comme un bien absolu, oubliant que c'est une création historique d'un moment particulier dans le développement de notre idéologie, et qui ne voit pas que c'est une forme de colonisation et d'imposition, beaucoup plus violente d'ailleurs, je dirais, qu'aucune autre qu'ont subi ces pays jusqu'à maintenant. Les administrateurs français ne se permettaient pas de se comporter, par exemple, comme une dame que je connais d'une des petites universités de New York qui gouverne un petit empire dans la forêt malgache, qui décide, elle toute seule, de ce que les gens vont faire, où ils peuvent cultiver, ou ce qu'ils peuvent manger. En fait, elle interdit plus ou moins toute forme de culture, et ils vivent de l'argent qu'elle leur donne, ils passent leur temps à se saouler, comme n'importe quel clochard dans ce genre de conditions. Il n'y a presque jamais eu ce genre de contrôle. Alors pour finir, juste quelques remarques. Qu'est-ce qu'un ethnologue comme moi peut faire ? Mais je ne suis pas sûr. Et qu'est-ce qu'un ethnologue devrait faire ? Une des réponses que vous diraient les écologistes, et qui vous disent tout à fait honnêtement, est que on devrait avoir des ethnologues avec nous qui pourraient nous expliquer ce que les gens pensent, un peu de la manière dont j'ai commencé de vous le faire. Et non seulement ça, les ethnologues aussi pourraient faire le trafic dans l'autre sens. Ils pourraient expliquer aux gens ce que les ethnologues veulent, ce que les écologistes veulent. Je crois qu'on peut le faire, mais le problème, c'est que leurs intérêts sont absolument opposés. D'expliquer aux gens ce que les deux côtés veulent n'aide pas. Je crois que ça rend les choses pires. C'est un des grands mythes libéraux de notre société, que si les gens se comprennent bien, ils s'entendent. S'ils se comprennent bien et qu'ils ont vraiment des intérêts violemment en conflit, ils s'entendent beaucoup moins bien. Il vaut peut-être mieux qu'ils ne se comprennent pas du tout. Ils se comprennent un peu, remarque. remarquez. Alors, qu'est-ce qu'un ethnologue va faire? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. La situation, en fin de compte, est très simple. C'est que nous avons un pouvoir qui vient de l'étranger, qui veut forcer un mode de vie sur des gens qui sont beaucoup plus faibles, et naturellement, les plus forts gagnent.